Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
Sí, Santito de la House.
Radio Rosana Pipari.
Lo que se reproduce bien en la radio.
France Inter, le 18-20.
En Haïti, il n'y a pas seulement de mauvaises choses, il y a de très belles choses qui se passent en Haïti. S'ils peuvent réaliser un festival de jazz, eh bien c'est un pays qui a un futur, qui a un avenir.
Haïti, d'où on ne parle pas que de catastrophes, de reconstruction bancale. Haïti qui organise depuis 13 ans un festival de jazz très couru. C'est en ce moment, on est heureux d'en parler avec vous et ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde. Sous les radars, et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, au Japon, en Italie, au Brésil. 18h50, bonsoir Bruxelles. L'Europe telle qu'on l'aime ou qu'on la quitte avant le vote du mois de mai. L'Europe qui rêve de marcher sur la Lune, elle aussi. On verra ça avec Angélique Boin. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four au Venezuela ce soir. Qui est cet opposant autoproclamé président, alors, mais avant on va voyager un petit peu d'une infox à une autre, le monde est vaste et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
La vente donc de l'Alsace et la Lorraine, le pacte de Marrakech qui devait permettre une entrée massive de migrants, les vaccins dont on nous cache la nocivité orchestrée par le gouvernement, le changement climatique qui est faux, etc. etc. Je ne vais pas vous apprendre que les fake news, les infox sont dans notre paysage médiatique désormais. Et le plus récemment d'ailleurs est cette histoire hallucinante d'Aix-la-Chapelle. Mais la question justement qu'on a voulu du coup poser ce soir, c'est est-ce que nous sommes nous très touchés finalement par rapport à d'autres, par rapport à nos voisins, finalement moins qu'on le croit? Qu'est-ce qui rend une population plus réceptive aux infox Fox qu'une autre? Et bonsoir Tristan Mendès-France.
Bonsoir à tous.
Vous êtes enseignant au CELSA, vous êtes maître de conférence associé à Paris Diderot, spécialisé dans les cultures numériques. Est-ce qu'on est plus perméable alors que nos voisins ou finalement on se situe dans la bonne moyenne?
On l'est un peu plus, malheureusement un peu plus, simplement parce que la société est un peu plus en crise. Le facteur crise est évidemment quelque chose d'assez notable dans la diffusion des fausses informations et des fake news. Donc on est malheureusement assez perméable.
Mais donc crise, ça peut vouloir dire crise ponctuelle. C'est pas forcément grosse crise démocratique, ou est-ce que c'est effet annonciateur aussi d'une crise plus importante quand on devient si perméable aux fake news?
Alors c'est probablement un symptôme d'une société plutôt malade. Je dirais que ça vient après. C'est quand la société se délite, c'est quand le dialogue social marche moins, c'est quand on a moins confiance dans les institutions qui sont importantes pour la démocratie, comme les médias, les politiques. Là, on a un terrain qui est malheureusement favorable à la diffusion de fausses informations et de fake news, qui est un terme un peu général, mais oui.
Alors, est-ce qu'il y a une spécificité, justement, et pour ces raisons-là, d'un pays à l'autre, en regardant un petit peu, en me penchant un peu sur la question, je vois par exemple qu'il y a des choses qui sont très communes. Le vaccin, par exemple, semble être une fake news totalement internationale et qui vient partout dans chaque pays. Est-ce qu'en fonction de cette fragilité dont vous parliez tout à l'heure, on est plus ou moins perméable à certains types d'informations?
Oui, je pense. Je pense clairement que l'état d'une société, en gros, la façon dont les informations font surface, ça veut dire aussi les informations qui proviennent des spécialistes, des universités. Donc la qualité en fait d'une société va clairement impacter la façon dont certaines fausses informations, la croyance qu'on a envers les vaccins, vont se répandre. Donc c'est vraiment une fonction, je crois vraiment, de la qualité presque de la démocratie des pays concernés.
Mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles nous, par exemple, en ce moment, puisque nous sommes en crise en ce moment, est-ce qu'on est plus perméable à certaines choses, spécifiquement ou pas?
Alors, ces fausses informations ont toujours, ou la plupart du temps, ricochent sur ce qui fait mal à une société. Donc en France, évidemment, les informations, les infox qu'on voit souvent circuler, qui sont souvent poussées généralement par des partis plutôt extrémistes, vont toucher à des questions qui interpellent la France particulièrement, c'est-à-dire des choses qui sont liées à son identité. Et donc évidemment, des informations complètement farfelues sur les migrants, des attaques sur notre souveraineté, on a vu ces derniers exemples. Donc on voit là une société qui a un problème avec son identité, qui se questionne, qui s'interroge et qui a cette fragilité-là et malheureusement qui la laisse beaucoup plus perméable vraisemblablement à certaines théories conspirationnistes.
Et c'est intéressant, alors on va en reparler parce que les migrants c'est vraiment le fil directeur, une sorte de fil rouge, quel que soit le pays dans lequel on va regarder en fait sur chacune des fake news. Chez nous c'est intéressant, cette histoire d'Aix-la-Chapelle par exemple, ça nous ramène aussi à notre histoire, ça nous ramène à une période très très antérieure. Qu'est-ce que ça dit de nous particulièrement quand là, subitement, on est en train d'imaginer que les Allemands rachètent l'Alsace et la Lorraine?
Toutes ces fausses informations sont pas hors sol. Elles naissent, elles infusent dans une culture, dans une société, dans une histoire. Donc, à chaque fois, et suivant chaque pays, on aura des infox, comme on dit maintenant, différentes, mais qui se nourrissent des inquiétudes propres à chaque pays. Donc, évidemment, cet épisode de l'Alsace-Lorraine nous a touchés, nous, a bien fait rire les Allemands. Allemands aussi, je vous en dirai un mot tout à l'heure peut-être, mais les Allemands ne sont pas exempts non plus de problèmes.
Alors on va y aller, on va aller faire un aller-retour en Allemagne. Juste une toute petite question, juste avant, il y a des pays quand même qui sont épargnés pour l'instant, donc qui seraient en parfaite bonne santé, du coup, si je vous suis bien, et qui sont épargnés des pays autour de nous ou pas ?
Non,
ils ont dans notre modèle à nous ?
J'y crois pas une seconde, et j'aimerais juste dire que je pense que les pays les plus touchés ne sont pas ceux auxquels on pense. Il y a les démocraties, bien sûr, mais les pays autoritaires sont probablement encore plus victimes des fausses informations au niveau sociétal.
Voilà, les pays fermés, les pays ouverts, on y viendra dans un instant. Je voudrais qu'on aille le faire, justement, cet aller-retour en Allemagne. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Fabienne.
On le disait à l'instant, ça a dû bien les faire rigoler quand même, cette histoire de d'Aix-la-Chapelle et d'Alsace-Lorraine, les Allemands. On a l'impression que chez vous, en Allemagne, on parle pas, alors certainement pas autour de d'Aix-la-Chapelle, mais qu'on en parle moins de fake news. Est-ce que je me trompe ou pas ?
Non, c'est plus relatif, c'est vrai, c'est plus nuancé ici. Il faut dire que le débat public est plus posé en Allemagne. Il est moins agité, moins caricatural. Il n'y a qu'à regarder un débat politique à la télévision pour s'en convaincre. Et puis la société allemande, je dirais, est beaucoup moins polarisée. Quand les sociodémocrates gouvernent ici, vous le savez, avec les conservateurs, ce jeu des coalitions gouvernementales produit un effet de modération. Là où en France, je crois, l'alternance politique attise les antagonismes. Avec le mode de scrutin aussi, ici c'est de la proportionnelle, donc les Allemands se sentent mieux représentés. Le facteur crise aussi qu'évoquait votre invité à l'instant, l'Allemagne se porte peut-être mieux que la France. On peut aussi parler des réseaux sociaux qui colportent ces fausses nouvelles. Ils ont une place moins importante qu'en France pour une population plus nombreuse ici. Il y a beaucoup moins d'utilisateurs de Facebook, de YouTube ou de Twitter. Ici les Allemands sont plutôt branchés sur WhatsApp qui est aussi bien sûr peut-être un vecteur de fausses nouvelles, mais dans une moindre mesure.
Alors, comment on a regardé les voisins immédiats, quand même, quand on a sorti, nous, ici en France, cette histoire d'Alsace et de Lorraine, on a dû être la risée de toute la presse autour de vous, non ?
Oui, ils sont devenus dingues un peu les Français là. On s'est dit oui, c'est vrai que c'est peut dire que cette déferlante, cette avalanche de contre-vérités a surpris ici. Les commentaires dans la presse allemande n'étaient pas tristes. On se demande parfois si les populistes européens n'organisent pas en secret un concours pour remplacer Donald Trump. S'est interrogé par exemple le Tagesspiegel après les déclarations de Marine Le Pen en France ou même plus proche de Berlin de l'ancien président tchèque. Un autre quotidien allemand faisait remarquer que la patronne Marine Le Pen, la patronne du Rassemblement National, pense que la France est avec ce traité placée sous le joug de l'Allemagne. Et dans le même temps, vous avez un tweet d'Alice Weidel, la chef ici du parti d'extrême droite AfD, qui s'indigne du fait que l'Allemagne va devoir payer pour les Français, deux pensées qui sont absolument contraires pour deux partis qui siègent ensemble au Parlement européen. Chacun, surtout, on le voit bien, la joue sur les peurs identitaires et agite les vieilles rancœurs tenaces.
Alors, c'est bien ce qu'on disait à l'instant. Effectivement, Ludovic, il y a quand même une chose dont on se souvient tous. Il y a eu l'affaire de Cologne, par exemple, où il y avait subitement, pour je ne sais pas combien il y a eu de réelles agressions, finalement, subitement, il y avait des centaines de migrants qui allaient agresser les filles, etc. etc. Donc, vous n'êtes pas vous n'y échappez pas, et surtout vous n'y échappez pas sur finalement les mêmes choses que nous en fait. On revient aux migrants, on revient à la peur de l'autre, on revient à notre identité, on revient à tout ça. Là-dessus, pour le coup, Ludovic, c'est notre dénominateur commun.
Absolument, les fausses nouvelles sont pas stoppées par le Rhin. Les deux pays ont en commun ces populistes qui jouent sur les peurs, sur la peur de l'autre, vous le dites. La peur de ces réfugiés qui sont arrivés ici par centaines de milliers. Et c'est vrai que ce 1er janvier 2016 coïncide après la vague la plus importante, l'arrivée la plus importante de réfugiés en 2015. Et c'est un peu ici le triste avènement pour la diffusion de fausses informations. Les médias ont d'abord été peu réactif sur cette nuit de la Saint-Sylvestre. Et en fait, c'est ce silence qui n'a fait que nourrir la suspicion vis-à-vis des médias, jugés complaisants en pleine crise des migrants. Et ça a été un carburant exceptionnel pour l'extrême droite, qui a pu reprendre un terme hérité de la période nazie. Ici, quand moi je me balade par exemple en Allemagne et que je vais à la rencontre de partisans d'extrême droite ou de cette mouvance-là, c'est un terme hérité de la période nazie. Ils me traitent de Lügenpresseux, de presse mensongère, de la presse qui ment.
Merci beaucoup Ludovic Piétenu. Tristan Mendès-France, on voit bien que tout ça est corollaire avec l'arrivée de l'extrême droite en fait en Allemagne. Est-ce qu'il y a quelque chose d'aussi, une équation de ce genre-là ? Les fake news arrivent en même temps que l'extrême droite et inversement ? Ou est-ce qu'il y a une fake news d'extrême gauche aussi en fait, au fond ?
Aussi, enfin en tout cas il y a une corrélation, simplement parce que l'extrême droite est beaucoup plus forte, ne serait-ce qu'en Allemagne et en France, hein, l'extrême droite est beaucoup plus forte que l'extrême gauche. Les partis populistes sont malheureusement de grands promoteurs, plus fréquemment que d'autres partis politiques, de théories conspirationnistes. Pour ce qui est de l'Allemagne, oui, il faut quand même bien insister sur le fait que nos amis allemands sont quand même touchés à moindre mesure, hein, mais ils sont quand même touchés salement par les fake news. Le score que fait l'AFD en est, disons, une des expressions assez flagrantes. Et puis, je me rappelle aussi que c'est pas seulement le silence des médias allemands, hein, d'ailleurs, qui est responsable de la montée de l'extrême droite, mais il y a aussi des médias allemands de Bild, je me rappelle, tiens, qui, pour ces mêmes épisodes, avaient relayé une fausse information, comme quoi, effectivement, un migrant avait violé une petite fille. Et Bild, d'ailleurs, s'est excusé par la suite. Je veux dire, voilà, même les médias traditionnels allemands peuvent être aussi commettre parfois l'impair de relayer une fausse information.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a pays ouverts et pays fermés. En gros, il y a des pays qui sont plus vulnérables que d'autres à recevoir ce genre d'informations. On pourrait croire que parce que nous sommes ouverts et qu'on a une presse libre et un internet libre, on est plus attaqué finalement par les fausses news, les fausses nouvelles. En réalité, c'est l'inverse, en fait. Plus le pays est fermé, plus il est vulnérable. C'est ça que vous dites ?
Oui, en partie, oui et non. Le fait que nous soyons des démocraties ouvertes fait que, et notamment à travers le jeu de notamment des réseaux sociaux, qui en fait en train de rebattre les jeux d'influence au niveau planétaire, permet à des pays étrangers qui sont peu recommandables de venir jouer sur notre terrain et de venir proposer une offre informationnelle sur un marché qui est totalement ouvert. Donc on est plus ouvert que d'autres, disons, à ces jeux de propagande. Mais on a une société plus résiliente que des sociétés plus fermées. C'est là où, à la fois, on est plus exposé, mais un peu plus résistant. Alors que si on prend, je ne sais pas, la Russie ou la Chine, là, c'est la population en elle-même qui, elle, est forcément prise par toutes les rumeurs et les fake news, simplement parce qu'il y a une seule voix, un seul média, en gros, auquel on ne peut pas se fier. Et si on ne peut pas se fier, en gros, aux médias d'État, le reste, c'est la pampa. On ne sait pas comment estimer, évaluer une information qui n'est vraie ou qui est fausse. Et il y a des scandales alimentaires en Chine où les gens ne savent plus si tel produit ou le vaccin est dangereux ou pas pour eux, parce qu'ils ne savent plus très bien vers qui se retourner pour avoir une information fiable.
Mais alors, ces fameux pays fermés dont vous parlez, vous avez cité d'ailleurs la Chine et la Russie, sont aussi ce qu'on appelle des promoteurs de fake news, les fameuses fermatrolles où on connaît ces images maintenant d'endroits, d'immeubles, même immenses, où on invente de l'information. Tout ça vient, malgré tout, de ces pays fermés-là. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui ? Est-ce qu'on a de quoi étayer ça ou pas ?
Alors, ça ne vient pas que de là. Hein. Ces fameuses usines à trolls, on en trouve en France, on en trouve en Macédonie, on en trouve évidemment en Russie. Donc on les trouve un peu partout. Hein. C'est pas propre forcément à ces pays fermés. Ce qui est plus significatif de certains pays fermés, comme la Russie, c'est qu'ils ont des médias d'État avec une capacité financière et une force appuyée sur la puissance d'un État, et des médias comme Russia Today qui, eux, peuvent donner, disons, diffuser des informations qui sont pas toujours des fake news, mais qui peuvent être un peu plus subtiles que ça, et faire de la propagande véritablement agressive sur nos démocraties.
Et ben, posons la question directement à Claude Brouillot. Bonsoir Claude.
Bonsoir Fabienne.
À Moscou pour Un jour dans le monde. Claude, je voudrais d'abord savoir rapidement comment on se défend quand on est Vladimir Poutine, quand on est les autorités, contre cette idée que, effectivement, c'est de Russie que viennent les fausses informations, c'est de Russie qu'il y a des fameuses fermatrolles. Comment on se défend ? Qu'est-ce qu'on dit chez vous ?
Alors, d'abord peut-être pour contextualiser un petit peu, comme on dit, l'homme fort du pays, donc Vladimir Poutine, depuis bientôt 20 ans maintenant, ne tweete pas, n'est pas un grand fan d'Internet et encore moins des réseaux sociaux. Alors, pour rester sur lui, lorsque son pays est placé en situation d'accusé, soit il ne dit rien, souvenez-vous, mai 2017, à Versailles, Vladimir Poutine est reçu par Emmanuel Macron, tout juste élu président de la République, et le numéro un russe, alors, ne réagit pas lorsque le président français dénonce deux médias russes ayant couvert la campagne présidentielle comme de véritables organes de propagande. Ou alors Vladimir Poutine ou les autorités russes répondent aux accusations par d'autres accusations. L'exemple le plus flagrant qui me vient à l'esprit, c'est la fausse mort d'Arkady Babchenko. Souvenez-vous, en mai dernier, ce journaliste russe réfugié en Ukraine qui, pour déjouer une tentative supposée d'assassinat contre sa personne par les services russes, justement, met en scène avec les autorités de Kiev son assassinat. Tous les médias partent sur cet événement factice pendant plusieurs heures, avant d'être informés donc de la supercherie, après quoi, évidemment, les autorités russes ont eu beau jeu de dire que les fabricants de fausses nouvelles ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Et quand il y a vraiment, venant de la Russie, une volonté évidente de travestir la réalité, eh bien, cette fois, les responsables s'en tirent souvent par une pirouette. On pense notamment à ce reportage de la chaîne fédérale d'Info Continue Russia 24, il y a un peu plus de 2 ans, un reportage qui présentait les Français comme des eurosceptiques, ayant peur des étrangers. Canal+ avait retrouvé les intervenants qui assuraient tous penser le contraire de ce qui était traduit dans le reportage. Pour sa défense, le journaliste russe de l'époque avait ironisé sur le fait que les médias français voulaient tout simplement lui apprendre à parler sa langue maternelle.
Et c'est vrai que c'est édifiant. Est-ce que quelle sorte de fake news arrive jusqu'en Russie, Claude, et comment les autorités se défendent contre le phénomène ?
Alors, c'est un petit peu, vous savez, l'ours qui, avant de sortir ses griffes, eh bien, se replie dans sa tanière. Alors, en ce moment, on est en plein dans la volonté de contrôler, justement, au maximum les médias et les réseaux sociaux, justement, pour éviter autant que possible que le pays soit perméable aux fake news. Alors, ça a commencé vraiment intensément l'an dernier, avec le blocage de la messagerie Telegram. C'est le fameux épisode, ici, des clés de cryptage de Telegram. Roskomnadzor, qui est l'autorité fédérale de régulation des médias, ici, en Russie, officiellement pour lutter contre le terrorisme, demandait à pouvoir accéder aux adresses IP et aux numéros de téléphone en Russie des abonnés de Telegram. Refus à l'époque de Pavel Durov, le cofondateur de Telegram, qui vit d'ailleurs à l'étranger. Blocage de la messagerie par les autorités russes. Blocage très vite d'ailleurs contourné par la plupart des utilisateurs. Et puis plus récemment, lundi, pour être précis, Roskomnadzor, toujours, a lancé une procédure à la fois contre Facebook et contre Twitter pour obtenir des deux messageries le respect des dispositions légales en Russie, selon lesquelles les données des utilisateurs russes doivent donc être stockées en Russie. On comprend pourquoi, pour mieux, évidemment, retrouver d'éventuels fauteurs de troubles. Enfin, aujourd'hui même, à la Douma, eh bien, la chambre basse du Parlement russe, on a tenté de légiférer contre les fake news. On a tenté, tout au moins, parce que le projet de loi contre tout ce qui se porte atteinte aux autorités et à la société russe, eh bien, des amendes, des peines de prison sont prévues. Mais jusque-là, le projet a été jugé trop large et difficile à appliquer, notamment parce qu'il y a un risque principal qui est celui d'engorger les tribunaux.
Merci beaucoup Claude Brouillon. Un dernier mot, Tristan Mendès France, on entend une tentative de légiférer du côté des Russes, ça existe aussi en Allemagne, on avait Ludovic à l'instant. On a nous aussi une loi contre les fake news, tout le monde en a une désormais, c'est rentré dans l'arsenal de chacun ?
Non, pas tous les pays. Les États-Unis, d'ailleurs au niveau européen, on est plutôt dans l'autorégulation que sur les législations dures. Mmh. Notre législation d'ailleurs à nous concerne simplement les périodes électorales, elle est beaucoup plus large. Donc c'est pas quelque chose, il y a certains pays assez lointains qui ont des législations comme en Indonésie où là c'est beaucoup plus dur. Donc c'est assez disparate et pas très homogène.
Allez, Tristan Mendès France, merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde, comme quoi voilà, les fake news sont très partagées par tout le monde. J'allais dire c'est presque rassurant, je suis pas sûr en fait. La suite d'Un jour dans le monde avec la bande du jeudi, c'est Amélie Perrier, Angélique Boin et Jean-Marc Four. Entre-temps, nous serons en Haïti, ne bougez pas. Le tour de la planète passe par la Californie, Nick Waterhouse. We'll be right back. Song for Winners, Nick Waterhouse. Voilà une chanson pour les gagnants. Bah, c'est pour nous, ça.
France Inter.
Good evening and welcome.
Bienvenue au Capillon.
Deux jours dans le monde.
Intervention extra.
Évidemment.
Tout Amélie. À fait, absolument d'accord.
Sous les radars, ça s'appelle, Amélie Perrier, quand la population d'un pays décroît, les femmes prennent le relais.
On l'a vu en Europe, pendant les guerres mondiales. Aujourd'hui, le Japon voit sa démographie chuter, sa population vieillir. Alors, le pays incite les femmes à s'engager dans l'armée. Les forces nippones comptent 300 000 soldats. C'est la 8e armée du monde. Et ces dernières années, la défense a dû se muscler face aux menaces de la Corée du Nord ou encore de la Chine. Alors, pour recruter, elle a déjà repoussé l'âge maximum pour s'enrôler de 27 à 32 ans. Et elle se tourne de plus en plus vers les femmes, car l'armée c'est défendre son pays contre les menaces d'autres puissances, mais c'est aussi défendre son pays contre les typhons, autres séismes, et le Japon n'est pas épargné. Alors voilà, Akiko Hirayama, ancienne agent d'aéroport, désormais militaire, elle explique « Le Japon subit tant de catastrophes naturelles. Notre maison a été inondée en juillet dernier. Mon père s'est porté volontaire dans les équipes de secours. C'était terrible, dit-elle. Il m'a raconté comment les militaires ont travaillé sans relâche pour sauver des gens. Ça m'a bouleversée, alors j'ai décidé de m'engager. » Voilà, Hirayama fait partie des nouvelles recrues de la base navale près de Tokyo. Sa formation va des arts martiaux à la cybersécurité. Aujourd'hui, les femmes ne représentent que 6% des militaires japonais, contre 16% aux États-Unis, en Australie, 15% en France. Ce virage vers davantage de mixité dans l'armée illustre une prise de conscience plus générale au Japon. Le premier ministre Shinzo Abe, que l'on connaît pour ses abénomiques, vous savez, c'est sa politique économique, eh bien, il veut aussi désormais un womenomics. Là aussi, contraction de women et de economics. Mix pour renforcer la place des femmes dans le monde du travail.
Oui, mine. Alors...
Oui, c'est mon accent.
Oui, je vous en prie, non, mais pas de souci. S'engager dans l'armée, Amélie, ou dans la banque, en Italie en tout cas, c'est un parcours du combattant.
Effectivement.
E tutti coloro che sceglieranno noi per costruire il futuro. Monte dei Paschi di Siena. Più forza alle persone.
Voilà, le slogan de la banque BMPS, plus de force pour les gens, a ouvert. Donc cette banque, elle a ouvert 50 postes et elle s'est retrouvée avec 7000 candidatures. La BMPS, c'est la Monte dei Paschi di Siena, la plus vieille du monde. Et si l'on a parlé d'elle récemment, c'est davantage pour ses grosses difficultés financières. Maillon faible du système bancaire italien, elle a été renflouée par l'État en 2017. Le ministère des Finances est désormais son principal actionnaire. Elle s'est engagée à réduire de 20% ses effectifs, à fermer 600 de ses 2000 agences, mais en parallèle, elle embauche quand même quelques dizaines de jeunes pour remettre un peu de sang neuf dans ses filiales. Les premiers efforts paient, la banque dégage enfin des bénéfices. Mais si la BMPS est à ce point convoitée, si elle a reçu autant de CV, c'est aussi la preuve que le chômage reste une plaie en Italie. 10,5% de la population active, et chez les plus jeunes, les 15-24 ans, ce chômage, il grimpe jusqu'à plus de 31%.
Allez, vous nous emmenez au Brésil pour terminer.
Avec deux noms parmi les plus connus de la scène musicale, Caetano Veloso et Daniela Mercury, ils viennent de sortir ce futur tube. Vous dansez pas mal,
oui, vous aussi.
En fait, le titre s'appelle Prohibido au carnaval.
C'est génial parce qu'immédiatement, on a bougé nos épaules d'un coup.
Alors, vous fiez pas au ton enjoué, justement, et au rythme entraînant, c'est le rythme de l'Axé, le carnaval traditionnel de Bahia, dans le Nord-Est, d'où viennent les deux artistes. Prohibido au carnaval, ça veut dire le carnaval est interdit. Et en fait, c'est un chant de protestation contre la censure qui s'abat sur le nouveau Brésil du président Jair Bolsonaro, ultra conservateur. Ouvre la porte de ce placard, disent les paroles. La censure ne va pas m'arrêter. Ouvre la porte de ce placard parce que la joie guérit. Embrasse-moi. Et le refrain, donc, c'est « Le carnaval est interdit dans ce pays tropical ». Ouvrir la porte du placard, c'est révéler son homosexualité. Daniela Mercury, l'une des premières chanteuses brésiliennes célèbres à avoir fait son coming out, est une icône de la défense des droits LGBT, mise à mal par le nouveau pouvoir. La chanson se moque aussi des sorties de la nouvelle ministre des droits de l'homme, pour qui, vous vous souvenez, les garçons s'habillent en bleu et les filles en rose.
C'est mieux pour les reconnaître.
Exactement. Dans le gouvernement de Bolsonaro, il n'y a plus de ministère de la culture. Il a été intégré à la citoyenneté et au sport, à la culture. Elle n'a pas fini de chanter, de danser au Brésil.
Et merci beaucoup Amélie Perrier. Dans Un jour dans le monde non plus, on n'a pas fini de chanter ni de danser, figurez-vous.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
C'est en Haïti que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde. Et vous entendez, derrière moi, on ne va pas parler de reconstruction, on ne va pas parler de catastrophe climatique, ni politique, ni de pauvreté, on va parler de jazz. Ce soir, le Festival international de jazz de Port-au-Prince s'achève ce week-end. C'était la 13e édition du Pap Jazz, avec Terence Blanchard, quand même, qui au passage est en lice pour les prochains Oscars, là, puisque c'est lui qui a fait la bande originale du film de Spike Lee. Bonsoir Amélie Baron.
Bonjour Fabienne.
Bonjour à vous. Amélie, le Pap Jazz commence à compter sur la scène internationale. On est content d'en parler parce qu'on y est avec Radio France, qu'on y est partenaire. En Haïti, vous allez voir ce que ça veut dire. Le Pap Jazz, ça fleure bon la Caraïbe.
Le jazz, pour moi, c'est comme la coriandre. Au début, on se pose la question, c'est quoi ? Et puis après, on écoute. Tout le monde n'aimait pas le jazz au début, mais finalement, on a eu bebop, on a eu cool jazz, et maintenant, c'est devenu universel. C'est un langage universel. Le jazz, c'est sublime.
Gérald de Ride ne rate aucune édition du Pap Jazz, et selon lui, il en va donc du jazz comme de la cuisine. Cette année à Port-au-Prince, c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts et de tous les horizons. Une quinzaine de pays sont représentés dans cette édition. Milena Sandler, qui est la directrice de la fondation Haïti Jazz, est elle-même presque surprise de l'ampleur prise par l'événement créé en 2007.
Le Pap Jazz a triplé de volume en termes de groupes qui viennent, de lieux dans lesquels se tient le festival. On a 12 lieux. On est également en province aussi cette année, à Jacmel et au Cap-Haïtien. De toute façon, faire un festival partout, c'est compliqué. En Haïti, vraiment particulièrement, quoi. Mais bon, c'est un défi qu'on relève chaque année et que, voilà, on aime ce qu'on fait de toute façon.
Cette énergie et cette passion séduisent. La réputation du Pap Jazz permet aujourd'hui au festival d'avoir les stars mondiales à l'affiche.
Terence Blanchard and the E Collective.
Notre ambition est d'être le festival de jazz de la Caraïbe. Donc la référence en termes non seulement d'organisation mais aussi de programmation. Et c'est vrai que cette année on a des grandes pointures. Terence Blanchard, qui est à son 5e Grammy Awards. Cécile McLaurin-Salvant, qui est la chanteuse de jazz la plus cotée du moment.
Je suis pas sous le malgré que je roule dans toutes les boîtes de nuit.
Une très belle affiche. Et puis, on veut rester un festival de jazz. Parce que dans la Caraïbe, la plupart des festivals qui se disent de jazz, ou même partout, enfin, il y a... Pour beaucoup, du hip-hop, du R&B et toutes sortes de musique, world music, etc. C'est très bien, mais on veut que les gens sachent que dans ce festival, on a du jazz de toutes les couleurs, mais aussi de tous les pays, du jazz.
Que du jazz, donc tout pour plaire à notre spectateur Gérald Reed. Lui est revenu vivre en Haïti après avoir passé 40 hivers à Boston. Autant dire qu'il apprécie le Pap Jazz aussi pour ses scènes en plein air au mois de janvier.
Et on a choisi une période où il fait très froid à Montreux, très froid à Montréal. Et pour les amoureux du jazz, c'est le moment de laisser le pays et de se mettre au chaud en Haïti. De venir ici, voir de très grands musiciens et voir qu'en Haïti, il n'y a pas seulement de mauvaises choses, il y a de très belles choses qui se passent en Haïti. Et au lieu de critiquer, de dire « Ah, mais s'ils peuvent réaliser un festival de jazz pendant 13 ans, eh bien c'est un pays qui a un futur, qui a un avenir. »
Le Pap Jazz est effectivement une preuve qu'Haïti a de belles expériences à offrir, contrairement à ce que pourrait en penser un certain président milliardaire. Samedi soir, sur scène, le trompettiste américain Terence Blanchard n'a pas manqué de le rappeler.
How you guys doing? Ça va bien?
Je voulais vous dire que pour moi, c'est un grand honneur de jouer dans ce pays de merde.
Cette insulte qu'avait lancée Donald Trump l'an dernier à Haïti et aux pays africains a plus qu'énervé le musicien.
Vu la passion que les gens ont pour la créativité et la musique dans ce pays, C'est tout simplement logique qu'il y ait ici un festival de jazz qui mêle les artistes internationaux et les artistes locaux. Bien sûr, ce pays lutte, ce pays a des difficultés. Franchement, c'est énervant de penser que quelqu'un a pu regarder par ici et oser faire ce commentaire. Je refuse d'écouter ce bruit. On a juste à passer cette période répugnante jusqu'à ce qu'on puisse faire quelque chose pour changer ça et faire du monde un endroit meilleur.
Un changement qui passe par la jeunesse et le Pape Jazz forge sa richesse dans les ateliers offerts par les grandes pointures du jazz. Terence Blanchard a ainsi passé plus d'une heure à conseiller de jeunes trompettistes haïtiens. Natif de la Louisiane, Terence Blanchard s'est senti comme chez lui à Port-au-Prince.
Dans ma carrière, j'ai beaucoup été en Europe et au Japon. Venir pour la première fois en Haïti, je suis désolé qu'il m'ait fallu autant de temps, mais maintenant que je suis venu, je vois très bien les liens et l'influence que la Caraïbe a sur la Nouvelle-Orléans. C'est quelque chose que je veux approfondir parce que je sens que j'ai des racines ici.
Terence Blanchard, c'est quand même la super classe. Amélie Baron, merci beaucoup. Le festival Papa Jazz, Radio Francilie, on est partenaire et ça nous fait plaisir. Allez, on reste dans l'ambiance peut-être, non? Pourquoi pas? Avec Sarah McKenzie, quoi.
Quoi. What have you done to me? Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-ya. The music plays with me. I never meant to walk your way. And then one day love walked my way. And now I'm all la 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 la. Pa-ra-pa-pa-pa. Qua 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 qua. Qua 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 qua. Qua 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 qua. What is the meaning of pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-ya? The rhythmic feeling of I never thought I'd get the call or that I'd ever dance at all. But now I'm on la 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 pa 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 qua 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 qua. Oh, je ne sais quoi.
Quoi? Ben rien.
Je suis venu vous parler d'Europe.
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati per l'Europa.
Un jour dans le monde.
Géniale.
L'Europe telle qu'on l'aime ou qu'on la quitte, l'Europe qui nous inspire, celle qui nous fait lever les yeux au ciel, on prend tout comme chaque jeudi. Bonsoir Angélique Boin.
Et bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Correspondante Angélique de France Inter à Bruxelles. On va regarder vers l'espace, Angélique, ce soir, l'infini et au-delà. On parle tourisme spatial, on parle astéroïdes. L'Europe entend avoir son mot à dire.
Et oui, on se bouscule en portillon de l'espace et l'Europe veut jouer un rôle majeur. On en a débattu cette semaine à Bruxelles où se tenait la 11e conférence sur la politique spatiale européenne. Et puis, il y avait cette annonce d'Ariane Group mardi, objectif Lune, hein, aurait dit Hergé l'idée. C'est d'abord d'envoyer d'ici 2025 un robot avec une mission précise, extraire de l'eau et de l'oxygène du régolithe. Alors, c'est de la poussière de Lune. Pourquoi faire? Eh bien, pour permettre une présence humaine autonome sur place en évitant trop de ravitaillement depuis la Terre. L'idée, ce serait aussi de produire du carburant pour organiser depuis la Lune des missions d'exploration plus lointaines, aller par exemple sur Mars. Tout cela n'est qu'un projet très ambitieux, mais un contrat a été signé entre Ariane Group, l'Agence spatiale européenne et deux start-up, une Allemande qui doit concevoir l'atterrisseur, une Belge chargée de la communication entre autres entre la Terre et la Lune, un consortium 100% européen. Des ingénieurs vont étudier pendant un an la faisabilité de ce projet sur lequel, on doit le dire, on n'a pas de clarté en termes de budget vraiment, et il sera ou non retenu à l'issue de ce travail, mais le message est clair. Après les Américains, les Russes et les Chinois, l'Europe veut poser son drapeau sur notre satellite.
Et donc on a bien compris que la concurrence était rude.
Ah oui, car les Chinois ont déjà posé leur robot qui explore la face cachée de la Lune. Les Indiens ont prévu d'envoyer cette année, en 2019, une mission non habitée. Les Américains veulent remplacer la station spatiale internationale dont l'avenir n'est plus assuré après 2024 par une station qui sera à proximité de la Lune pour l'utiliser aussi comme zone de transit vers l'espace plus lointain. Et puis il y a tous ceux qui veulent y envoyer des touristes. On peut parler du projet d'Elon Musk, ce passager unique qui voyagerait autour de la Lune à bord de sa méga fusée, la Big Falcon Rocket. fête et qui aurait déjà signé un contrat pour 2022. Mais je dois dire que les experts sont assez dubitatifs.
Alors, la Lune intéresse donc les Européens aussi. Mais il n'y a pas que ça, Angélique, il y a plein d'autres projets spatiaux européens.
Oui, et c'est de cela dont on a débattu ici à Bruxelles pendant deux jours avec des chercheurs, des industriels, des parlementaires, des experts de la société civile et sous le patronage de l'Union européenne. L'Europe spatiale, disons-le, n'a déjà pas à rougir avec, par exemple, Galileo qui concurrence le GPS américain avec 600 millions d'utilisateurs ou encore Copernicus, ce système d'observation de la Terre qui nous donne plein d'infos sur l'état de la planète. Mais les projets foisonnent. Et là, on a une idée des investissements que pourraient y consacrer les États membre de l'Union, 16 milliards d'euros de budget pour la période 2021-2027. C'est ce que propose la Commission, contre 11 milliards dans le précédent budget pluriannuel. Rappelons néanmoins qu'on reste assez loin derrière les Américains. Ils consacrent 4 à 6 fois plus d'argent que nous à la conquête spatiale. Il y a donc encore un peu de marge.
Angélique, l'actualité de la semaine à Bruxelles, c'est aussi ce coup de pouce promis aux pêcheurs européens en cas de départ désordonné des Britanniques.
Oui, c'est une annonce importante hier de la Commission, hein, le secteur de la pêche, on en parle un petit peu moins que la frontière irlandaise. Et pourtant, un Brexit sans accord aura des répercussions considérables sur les pêcheries européennes, c'est ce qu'a rappelé son porte-parole. Alors si les eaux très poissonneuses des Britanniques étaient soudainement fermées aux pêcheurs des autres États membres, hein, alors la Commission propose qu'ils puissent être aidés financièrement par le Fonds européen pour les affaires maritimes. Mais les Européens espèrent ne pas en arriver là, ils proposent un accord de réciprocité en cas de no deal. En gros, laissez-nous pêcher chez vous, on vous laissera l'accès aux européennes. Reste que le rapport de force n'est pas favorable. Hein. En 2015, un chiffre, les pêcheurs européens ont pêché 683 000 tonnes de poissons dans les eaux du Royaume-Uni. Les pêcheurs britanniques seulement 110 000.
Angélique Boin avec nous dans Un jour dans le monde depuis Bruxelles. Merci Angélique.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, la confusion politique continue de régner hein, au Venezuela au moment où on se parle. Il y a donc désormais deux présidents. D'un côté, Nicolas Maduro, réélu l'an dernier dans des conditions très contestées. De l'autre, il y a Juan Guaido, président du Parlement, leader de l'opposition qui s'est autoproclamé président légitime. Est-ce que je me suis trompé dans la prononciation ?
Guaido,
on en a parlé tout à l'heure, c'est terrible. Le régime autoritaire de Maduro vacille, mais dans votre monde à l'envers, vous nous dites attention quand même, l'opposition vénézuélienne n'est pas que sympathique.
À dire vrai, on se demande comment nous n'en sommes pas arrivés là plus tôt. Pourquoi ? Parce que le régime de Nicolas Maduro a basculé dans l'autoritarisme, la répression et l'incompétence économique. Maduro a été réélu au terme d'un processus électoral qui ne présentait aucune garantie démocratique. Et celui qui se présente comme l'héritier d'Hugo Chavez mène une politique éloignée des intentions initiales de la révolution bolivarienne il y a 20 ans. À ses débuts, il faut le rappeler, le régime de Chavez divisait bien sûr ce pays de 30 millions d'habitants, mais il bénéficiait d'un réel soutien dans les classes populaires. Il avait amélioré l'accès à la santé et à l'éducation. Et puis au fil des ans, le régime est devenu de plus en plus autoritaire et corrompu. Répression des opposants, atteinte répétée à la liberté de la presse, concentration du pouvoir dans un clan en partie composé de militaires et surtout, je le disais, incompétence économique, mais dans les grandes largeurs, ce sont des cancres, ils ont transformé le pays en Titanic, dit un diplomate occidental. Résultat quoi ? Une inflation délirante qui se compte en millions de pourcents, ça dépasse l'entendement. Une pénurie croissante de médicaments, de nourriture, une production de pétrole en chute libre, un exode massif évidemment de population, on le sait, près de 3 millions de Vénézuéliens ont fui vers les pays voisins. Donc forcément, quand on voit émerger une alternative, on est d'abord tenté d'y voir une bonne nouvelle.
Alors sauf que vous n'êtes pas tout à fait convaincu.
Disons qu'on demande à voir... C'est toujours compliqué, je vais vous dire, de parler du Venezuela parce que c'est un sujet qui suscite des débats, y compris parmi nos auditeurs, des débats passionnés pour ou contre le chavisme. On peut quand même essayer de sortir de ces choix caricaturaux. À première vue, le rival de Maduro, Juan Guaido, a l'air sympathique, jeune, 35 ans, charismatique, plutôt modéré. Mais il n'aura pas la partie facile. D'abord, derrière lui, c'est compliqué. L'opposition est divisée en tout un tas de partis qui ne sont pas d'accord sur grand-chose. Ça va des sociaux-démocrates à la droite ultralibérale. Et dans le lot, il y a par exemple Maria Corina Machado, que l'on dit en ligne directe avec Washington. Et puis, dénoncer la dérive Maduro, ça ne doit pas faire oublier ce qui a précédé le chavisme. Dans les années 90, c'était le Venezuela des présidents Pérez et Caldera. C'était déjà une terre de corruption, de pauvreté, voire de très grande pauvreté, malgré le pétrole déjà, avec un fort taux d'analphabétisme, un accès à la santé très réduit, le tout sur fond de privatisation en série, d'austérité, de gel des salaires, avec des richesses captées par une haute bourgeoisie complètement coupée des réalités. Donc il vaut toujours mieux ne pas avoir la mémoire courte. Les opposants vénézuéliens ne sont pas tous quand même des enfants de cœur. Et par-dessus le marché, il y a certains hauts gradés de l'armée qui pourraient être tentés par un vrai coup d'État, pour le coup, pour préserver leurs intérêts.
Mais on voit bien quand même, Jean-Marc, que les démocraties occidentales soutiennent plutôt l'opposition.
Là aussi, il faut regarder... Plus dans les détails, bon, côté soutien au pouvoir de Maduro, pas de surprise, Cuba, la Russie, la Chine, la Turquie, etc. Côté soutien à l'opposition, il y a en fait des différences de tonalité, Franck Mathevon le disait tout à l'heure dans le journal de 18h. Soutien poli de l'Europe qui appelle à des élections libres, en revanche soutien plus net d'Emmanuel Macron et surtout soutien sans faille du Brésil de Bolsonaro et des États-Unis de Trump. Washington avait même quasiment appelé au coup d'État des avant-hier par la voix du vice-président Mike Pence. Et là, faut quand même se poser la question, quand vos alliés numéro un s'appellent Trump et Bolsonaro, est-ce que c'est vraiment une garantie de défense des libertés? Je vous laisse répondre. Dans le cas des États-Unis, Washington a sans doute des arrière-pensées, au moins deux. Un, achever la bascule à droite du continent sud-américain. Si le Venezuela chute, il ne restera plus que la Bolivie d'Evo Morales. Et alors, tout le continent reviendrait dans le giron idéologique des États-Unis. Deux, préserver des intérêts pétroliers. Les raffineries américaines auraient tout à gagner à voir s'installer à Caracas un gouvernement pro-Washington. Donc on se résume, Juan Guaido est sans doute sincère dans sa volonté d'élaborer une vraie plateforme démocratique, mais il aura fort à faire parce qu'en cuisine, il n'y a pas que des bonnes fées derrière ce soulèvement.
Le monde à l'envers de Jean-Marc Four, tous les jours, dans Un jour dans le monde. Merci Jean-Marc, nous on reste ensemble pour le téléphone sonne. Juste avant, il y aura le journal de Sébastien Faour, bien sûr. Et merci de passer la soirée avec nous.